Hello, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijaweli, chose promise, chose due. Je te retrouve donc pour la deuxième partie de mon épisode avec Tina, où l'on parle de deuil périnatal et d'endométriose. Donc sans plus tarder, je te dis bonne écoute. Et tout à l'heure, justement, tu as dit, parfois ça fait du bien à ton mari et à toi de pleurer, en fait, de vous libérer, en tout cas d'exprimer votre deuil. Et du coup, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Qu'en fait-on en tant que couple pour traverser cette épreuve de la vie? Parce qu'il y a des cas où ça rapproche le couple, il y a vraiment une solidarité mutuelle, et il y a d'autres cas
Où
où
ça renforce.
malheureusement cela peut se solder par une séparation. Mais je pense peut-être aussi que si le fondement, la base du couple n'était pas déjà solide, cela peut créer des frictions, des frustrations et peut conduire à une séparation. Mais vous avez fait comment, vous deux? En tant que homme africain, ton mari, parce que tu sais, on a encore cette... souvent, l'homme ne pleure pas, non, un homme doit être fort, un homme doit pas montrer ses sentiments, un homme doit pas montrer ses émotions. Donc, c'est comment, justement, tous les deux, vous avez fait pour surmonter la perte de votre petit nuage. Et justement, si vous avez été accompagné, mais là, tu m'as parlé du psy et tout, et est-ce qu'ensemble, ça vous arrive d'en parler, ou bien c'est comme un sujet tabou? Non, chacun préfère se réfugier dans le silence et on fait comme si, bon, bah, j'ai envie d'en parler, mais je peux pas en parler parce que je vais pas blesser l'autre. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
On en parle, si je comprends bien. On en parle beaucoup, mon mari et moi. On en parle très souvent. Parfois, on se moque de petits nuages. On le
Il vous regarde de
critique.
là-haut, attendez seulement.
On le critique. Moi,
Oui.
je dis avec sa grosse tête et puis son nez, on dirait comme son papa là. Donc, oui. Parfois, oui, on parle de lui. Sans en arriver à faire comme s'il était là. On est conscients tous les deux qu'il n'est plus là. Et on parle de lui. Moi, je parle toujours de lui au présent. Parce qu'il est vivant en moi. Mais je sais qu'il n'est pas là du tout, du tout. Il n'est
Physiquement,
pas,
oui.
oui. Il est absent. Et on va parler de cette absence-là. Parfois, on va parler seulement de l'absence de. On aurait voulu que si petit nuage était là, tu allais le saluer, que tu allais dire d'aller ramasser les assiettes ou bien. Je dis, mais non. Petit nuage, c'est un petit prince. C'est à toi que j'allais dire d'aller ramasser les assiettes. Et tu vois, il y a ça. Et parfois, on taquine
Oui.
avec mon mari, on rit beaucoup. Ce qui est bien avec mon mari, c'est que avant de se marier, on avait déjà résolu une question fondamentale, c'est celle de l'expression de ses émotions. Et j'ai envie de dire que mon mari est un féministe déconstruit. Il est féministe et il est déconstruit.
Et dis-le encore, au cas où les gens, ils ont pas
Mon
accroché.
mari est féministe et il est déconstruit. Après, il n'aime pas que je dise qu'il est féministe, mais il l'est. Il est féministe, il s'assume, ça dépend des moments. Hein. Parfois, quand il a envie de me faire chier, désolé, il dit qu'il est humaniste et j'ai envie de le trucider. Mais si je le trucide, je serai toute seule, donc je ne vais pas le trucider. Mais mon mari est féministe. Oui, mon mari est féministe et il est déconstruit. Et cette déconstruction est partie du fait que je lui ai dit que, homme ou pas, c'est un être humain avec des émotions qu'il est libre d'exprimer. Il peut parfois, on va dire, mal les exprimer parce que peut-être que c'est pas contenu, mais le plus important, c'est qu'il s'exprime. Et moi, mon mari est un soutien infaillible pour moi. C'est-à-dire qu'il va il va tout serrer pour me porter. Et comme je sais que à ce moment-là, il va s'oublier, je vais prendre le temps de revenir vers lui et de lui dire, merci de m'avoir porté, mais toi, comment tu vas?
Exactement, c'est
Et même quand ça a été le plus difficile pour nous,
bien.
même quand moi j'ai pensé divorcer pendant le deuil parce qu'il m'a fait un truc que j'ai absolument pas apprécié, il m'avait donné sa parole pour quelque chose et il est revenu sur cette parole-là. Et je vais pas en parler pour lui parce que je sais pas s'il veut que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle pas, mais tout ce qui me concerne, moi j'en parle librement. Mais...
Y a pas de problème.
Et même là, quand j'ai pensé divorcer, on était là l'un pour l'autre. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais tu veux divorcer en réalité, pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne, il va parfois revenir sur des promesses qu'il t'a faites. Non pas parce qu'il ne t'aime plus, non pas parce que le temps. Mais si tu divorces là, tu vas vivre ce deuil avec qui? Parce que de toute façon, vous
Exactement.
devriez vivre ce deuil ensemble. Et si tu es fâché dans les conditions de ce deuil, tu peux lui dire que tu es fâché, mais tu vas divorcer comment? Surtout qu'il fait tout pour toi. Mais quand je vous dis tout pour moi, c'est vraiment tout. Et je me suis dit que j'ai peut-être, je suis partie un peu trop loin dans ma colère, en fait, jusqu'à penser divorcer. Et quand j'ai fait ce travail sur moi, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit,
Oui.
chérie, j'ai pensé divorcer. J'avais déjà commencé à m'organiser et tout. Voilà. Oui, moi, je
Les
suis très
femmes.
organisée, enfin, comme toutes les femmes. J'avais commencé à m'organiser et j'ai exprimé ce qui me faisait mal, en fait, la blessure qu'il avait causée. Et il était déjà très désolé
Oui.
parce qu'il avait déjà commencé à me demander pardon bien avant et avant que. Et là, il m'a vraiment demandé pardon. Et on en a parlé. Mais enfin, je reviens sur cette histoire de j'ai voulu divorcer parce que l'amour qu'on se porte, c'est un bon fondement. C'est le fondement, c'est parce que j'aime mon mari que j'ai commencé à me questionner, en fait, sur ma décision de divorcer. Est-ce que pour lui, c'est bien? Est-ce que pour moi, est-ce que c'est de la manifestation de l'amour pour lui? Parce que c'est vrai qu'il est revenu sur sa parole. Mais ce n'est pas parce qu'il voulait. Son intention, ce n'était pas de me faire du mal, c'était parce qu'il pensait que, pardon, la décision que j'avais prise, ce n'était pas la bonne décision. Et après, je me suis rendu. Aujourd'hui, je me rends compte que il avait peut-être raison.
Oui.
Il avait peut-être raison, il a raison. Plus on avance, plus je me rends compte qu'il a raison et que je n'aurais pas aimé que les choses se fassent autrement.
Et c'est bien de faire ce travail sur soi, en fait, d'introspection, enfin, d'être conscient que bon, nous, les femmes, des parfois, on est plutôt aussi impulsives, j'ai envie de dire.
Après, ce n'était pas de l'impulsivité, c'était vraiment une. Moi, ma position était vraiment
C'était
une position
réfléchi.
réfléchie, mais c'était réfléchi de mon point de vue seulement. J'avais pas forcément pris en compte tous les paramètres. Et là, lui, il a eu un autre point. Au début, il était d'accord, et puis après, il a pris en compte d'autres paramètres, et puis il m'a dit, chérie, on va pas le faire comme ça. Et je lui enlève, mais enfin. Moi, je suis très, très, très revancharde, très, très hargneuse. Donc, moi, je t'en veux avec mes tripes. Donc, je l'en ai voulu vraiment. Et je ne lui parlais pas du tout. C'était très, 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 très strict, là. Il ne faut pas dépasser les bornes et tout. Sauf qu'on était dans ce moment de deuil-là. Il fallait prendre soin l'un de l'autre. Donc, je fais, hey, attention. Et puis, 5 minutes après, je viens lui demander comment il va. Jusqu'à ce que. Je me dis que c'est mon. Enfin, comme j'ai ma petite sœur qui aime bien me dire que c'est ton mari, c'est ton partenaire, ce n'est pas ton ennemi. Et elle me rappelle ça tout le temps. Et là, quand tu switches, en fait, et tu te dis, enfin, on n'est pas dans un combat de qui a raison, de qui a tort, de qui va blesser l'autre le plus, mais on est dans un partenariat, on est tout à fait égaux. Et dans cette égalité-là, on peut tous les deux blesser l'autre. Et que tu t'en rends même pas compte que dans la journée, tu as pu le blesser 10 fois. Et que parce que tu es en deuil et que lui aussi il est en deuil, il n'a même pas relevé, pardon, que tu l'as blessé. Et puis, on en a discuté.
Et se pardonner mutuellement aussi, c'est
Et
important.
vraiment, exactement. Et parfois, bah, je dis, chérie, on prend une pause ce soir. On va parler de comment on se sent. Bon, ça finit toujours en moi en pleurs. Mais
Mais c'est une bonne
on
thérapie en
parle.
fait qu'il faut faire. Et je
Oui,
pense
oui, oui.
un jour dans la semaine, en fait, c'est de s'asseoir et de dire ouvertement les choses à cœur ouvert.
Oui. Un jour dans la semaine, on se dit, le soir dans le lit, je lui demande comment tu te sens. Est-ce que tu as pensé à petit nuage aujourd'hui? Il va me dire oui. J'étais en train de faire court. Et puis, parce que petit nuage, il avait vraiment les doigts de son papa et ça se voyait tellement. Et c'est moi qui avait remarqué ça et je lui avais envoyé la photo. Donc, il me dit, parfois, il est en train de faire court, il est en train de parler. Et puis il va lever ses doigts et puis il va s'arrêter en fait. Mais il est devant ses étudiants, il ne peut pas pleurer. Donc après, quand il va finir le cours, il va prendre le temps, il va pleurer. Puis soit parfois il pleure, soit parfois il rit. Il va regarder les vidéos qu'on avait de petits nuages. Et puis mais parfois il va rentrer à la maison, il va oublier de m'en parler. Et il y a ça aussi, le fait qu'on prenne le temps de faire un bilan, parfois dans la semaine, parfois chaque 2 semaines, ça dépend, hein. Du besoin, de ce qu'on ressent, ça fait qu'il y a des choses, des événements qui sont passés dans la journée qu'on n'a pas pu partager, et auxquels on va penser là, on va essayer de se souvenir, donc on va penser à ça, et on va partager, et puis ça va renforcer nos liens. Ça va renforcer nos liens, ça va nous permettre de devenir. En tout cas, nous, ça nous a apporté. Le deuil de Petit Nuage nous a fait nous rappeler qu'on était faits l'un pour l'autre et qu'on s'aimait vraiment. Et que c'est aujourd'hui un lien parce que même si enfin, ce qui va pas arriver, on se sépare, il y a ça qui va toujours nous. Parce que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, on a un enfant ensemble. Il n'est peut-être pas à la maison, il n'est peut-être pas présent,
Oui,
mais on a un
et
enfant
ça vous
ensemble.
lie en fait. Oui.
Exactement.
Mais on parle de deuil périnatal, mais sauf que et dans ton cas, c'est un peu, en tout cas dans votre cas, toi et ton mari, c'est un peu, on parle de deuil périnatal, mais en même temps, c'est comme si techniquement parlant, enfin, est-ce que c'est techniquement ou scientifiquement? Bon, en tout cas, je ne sais plus. Est-ce que c'est est-ce qu'on doit vous considérer comme des maman ange et papa ange, parce que le deuil périnatal, pour pouvoir, je pense qu'il y a comme un délai pour pouvoir qualifier justement la perte d'un enfant de deuil périnatal. Je crois que c'est entre 22 semaines, ou enfin, en tout cas, je ne vais pas dire de bêtises, mais
22 semaines jusqu'à 10 jours, 7 ou 10 jours après la naissance.
voilà, exactement. Mais alors que pour Petit Nuage, c'est plus. Donc,
C'est 40
voilà,
jours après
c'est
la
ça. Comme il
naissance.
n'y a pas.
Alors,
Tu rentres dans quelle catégorie, en fait? Je veux
il y a
dire,
deux
c'est
grandes
ça.
écoles, et je crois que ça a été l'objet de mon premier épisode. Il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de 22 semaines, donc la mort 22 semaines. Donc, ils ne prennent pas en compte tous les bébés qui meurent avant 22 semaines et 10 à 7 jours après la naissance. Donc, il y a cette école-là qui est soutenue par je ne sais plus qui, j'ai oublié. Mais je crois que c'est l'ONU, non? ONU, ou la. J'ai failli dire la CDAO,
L'OMS, non?
l'OMS, voilà, la définition que donne l'OMS du deuil périnatal. Et puis il y a une autre école qui dit que, enfin, on doit considérer la mort d'un enfant comme un deuil périnatal.
Peu importe, en
Oui,
fait.
mais dans la période de la natalité, c'est-à-dire qu'il est
Oui.
né jusqu'à 1 an, 2 ans, même voire même 3, je crois. Et moi, je suis pour cette
OK.
école-là. Donc, du moment où on est enceinte, où on apprend la grossesse, jusqu'à, parce que parfois on apprend la grossesse bien longtemps après avoir été enceinte. Donc, du moment où on apprend la grossesse et 1 an, 2 ans maximum, mais encore à observer, on est vraiment dans le deuil périnatal. Parce qu'il y a le deuil périnatal parce que c'est lié à la natalité. Donc, on vient d'accoucher, une natalité qui est, comment je vais dire? Qui est, je ne dis pas neuve, mais qui est. Parce que le deuil d'un enfant de 15 ans, ce n'est pas le deuil d'un enfant de 3 semaines, d'un mois, de 2 ans. Voilà.
Oui, d'un
Donc moi, je
mois,
suis pour la
oui.
deuxième école, hein, bien évidemment. Non pas parce que je suis dans ce cas-là, mais j'ai lu beaucoup de
Oui.
choses, j'ai lu beaucoup de sources qui me permettent de choisir, ce cas-là. Et puis, ce serait exclure tellement de mamans. Et je trouve ça. Je trouve
Mais c'est
ça, c'est
ça, en
sûrement un
fait,
homme qui a fait
oui.
pondu cette définition-là. Je trouve ça, je trouve le caractère. Et moi, je suis en fait pour l'inclusivité. C'est pour ça que je suis pour la deuxième position. Et je trouve cette définition-là tellement, tellement clivante que je ne l'apprécie pas du tout. Donc pour moi, le deuil périnatal, c'est beaucoup plus que ça.
Ok. Et je sais que c'est une sorte de thérapie pour toi. Et pourquoi as-tu, parce que finalement, pourquoi as-tu décidé d'en parler à travers ton podcast et sur les réseaux de manière vraie, sincère, authentique, avec tes émotions, tes sentiments, tes états d'âme, en fait, comment tu ressens les choses?
Alors, j'ai décidé d'en parler parce que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à annoncer le décès de mon fils à mes amis, qu'elles avaient presque toutes vécu la perte d'un bébé. Soit que ce soit une
Ah,
grossesse qui n'a
OK.
pas abouti, soit que ce soit une fausse couche tardive et tout ça. Et puis, je me suis dit, mais attends, on est proches, on se parle de nos peines et de nos joies. Mais elles ne m'en ont pas parlé. Et ça a été le second choc. Parce que le premier choc, c'est plutôt ma mère qui m'a dit que en pays baoulé, c'est l'ethnie du centre de la Côte d'Ivoire, et un peu chez nous aussi,
Oui.
on ne pleure pas le premier enfant qui meurt. Il faut le laisser partir. Parce qu'on a cette idée que je trouve saugrenue, mais qui a forcément un fondement que je ne connais pas, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord que si on pleure l'enfant qui est mort, on n'en aura pas
Oui.
d'autre. Et ça a été la première position de ma mère. Elle m'a dit, il ne faut pas pleurer. Donc elle m'a dit ça, moi, j'ai arrêté de lui parler. Et puis après, elle est revenue à de meilleurs sentiments que moi.
C'est notre génération et c'est les coutumes et les traditions, je
Mais,
suppose. Oui.
oui, mais enfin, sa peine était tellement immense qu'elle s'est rendue
Mmh.
compte que ce n'était pas une position tenable. Donc elle-même, elle passait son temps à pleurer. Et comme ma
Oui.
mère, je t'ai dit, c'est une femme sage, si elle-même, elle pleure autant, elle ne peut pas dire à la maman du bébé de ne pas
Exactement.
pleurer. Et on a commencé à discuter. Et ce qui est drôle, c'est que la première personne que j'ai commencé à éduquer à la bienveillance et à la liberté de pleurer pendant que moi, j'étais également en train de pleurer, c'est ma mère, parce que je lui ai dit que c'était normal de pleurer. C'était normal d'exprimer ses émotions et tout. Et il fallait vraiment pas se mettre dans un cadre, parce que le deuil, c'est quelque chose de très mesquin. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le faire plus tard. Le problème, c'est le moment où tu vas le
Oui.
faire. Parce que ça va te conduire à un burn-out très sévère. Tu vas pas
Parce que
pouvoir te
tu souffres en
remettre.
silence, en fait, mais t'exprimes pas.
Et tu te laisses mourir. Et moi, je pense que Dieu m'avait déjà préparé parce que moi, j'avais une relation très compliquée à la mort.
OK.
Et quand mon grand-père est décédé il y a 2 ans, c'était la première fois. Moi, quand quelqu'un meurt, en fait, je croyais pas que la personne. Je voyais quelqu'un qui était couché et j'ai regardé. J'ai assisté à des obsèques, je pleurais pas, j'étais là. En fait, tu me dis que quelqu'un est mort, je te dis OK. Mais ça, pas plus que
Oui.
ça. Je suis désolée pour la personne qui a perdu quelqu'un, mais pour la personne qui est morte, je ressens rien, pas plus que ça. Sauf que quand mon grand-père est mort, et ça a été ma seconde relation vraiment, mais ça a été la première fois où j'affrontais mes émotions, où je me laissais ressentir des choses et que j'affrontais ce que je ressentais. Parce que ce jour-là, j'ai pleuré, j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, Nelly, tu as pensé, tu pleures comme ça. Et
Tina,
moi-même, en
arrête.
fait, j'ai un certain. Oui. J'arrive à me dissocier de moi-même et à m'observer et à me moquer de
Oui.
moi-même. C'est un peu bizarre, mais
De
j'arrive à le faire.
l'autodérision.
Je sais pas, mais. Oui, je me dissocie et puis je me regarde et puis je dis, je suis. Tu as pensé, c'est quoi ça? Oh, lève-toi. Enfin, je fais ça parfois quand je m'arrête et puis il me
Oui.
regarde. Mon mari dit, mais tu parles à qui? Je dis, non, je me parle à moi-même. Il dit, toi, pousse là-bas. Et effectivement, je me suis regardée pendant le deuil de mon grand-père. Je me suis dit, alors là. Et j'ai écrit dessus. Parce que moi, j'ai deux armes, parler et écrire. Donc, j'ai écrit un article sur mon grand-père est mort. Parce que j'avais besoin de fixer. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce besoin. Mais j'avais besoin de fixer les émotions, de savoir. Donc, j'ai fait ça. Et ça m'a permis de bien vivre mon deuil. Et ma mère, quand j'ai écrit mon grand-père est mort, je lui ai envoyé. Elle l'a lu. Et ça lui a fait du bien. Et elle l'a envoyé à une de ses sœurs qui, elle, à travers les émotions que j'avais retranscrites, a exprimé ses émotions par rapport à la mort de son
OK.
papa. Et elle m'a dit, mais ça m'a fait du bien de lire les mots que Nelly a écrits et tout ça.
Ah, tu vois, ça libère.
Donc j'avais déjà, oui, j'avais déjà eu cet épisode-là. Donc quand mon fils est mort, j'arrivais pas à écrire et j'avais les crises d'endométriose, donc j'arrivais pas à m'asseoir pour écrire. Donc c'est la parole qui me restait et c'est cette parole-là que j'ai choisie pour vivre, pour
Oui.
exprimer et pour me libérer. Mais surtout pour parler, pour donner, pour faire un héritage, donner un héritage à mes sœurs. Parce que l'héritage, ce n'est pas forcément seulement quand on meurt. L'héritage, ce n'est pas seulement l'héritage de je suis morte, je suis en terre, mais c'est l'héritage d'une saison de notre vie qui est passée
Oui.
et que l'on lègue. Et c'est en cela que j'ai fait ce podcast-là. C'est une saison de ma vie et je veux que cette saison de ma vie, quand moi j'en sortirai, que je ne la vivrai plus, bah, je laisse un héritage de ce que j'ai vécu à mes sœurs, à mes mères, à mes cousines. C'est vraiment dans un but de sororité, dans un but de laisser des traces, dans un but de, et surtout de leur dire que c'est possible de libérer la parole, c'est possible d'en parler, et que notre deuil est légitimement exprimable dans l'espace public. Et que
Oui.
c'est à nous de nous saisir de l'espace public et de dire que dans l'espace public, j'exprime ma nudité, dans l'espace public, j'exprime mes émotions, que ce sont des émotions légitimes qui ne doivent pas forcément être cachées, mais qui doivent être exprimées.
Oui.
C'est vraiment une revendication de femme, avant tout. Ensuite, c'est une revendication féministe. Et au-delà, c'est une revendication de mère. De mère qui ne veut pas rester cachée dans sa chambre à pleurer, à essuyer ses larmes et à sortir et à sourire. Je veux que le monde sache que je pleure quand je mange, je pleure quand je fais caca, je pleure quand je regarde la télé, je pleure quand je me lave, je pleure même parfois quand je fais l'amour avec mon mari. Parce que je me rends compte que
Oui.
c'est en faisant l'amour que j'ai donné naissance à Petit Nuage et que je n'ai plus Petit Nuage. Et je vous dis, parfois, je commence à pleurer. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, je t'ai fait mal parce que les relations sexuelles,
Oui,
c'est
avec
compliqué.
l'endométriose,
Et je lui dis, non, c'est pas ça. Ouais. Je lui dis, non, c'est pas ça. Je pensais à Petit Nuage. Il me regarde.
ouais. Oui,
Et
c'est
enfin,
beau,
ça nous
c'est...
ramène, ça donne un petit piment dans l'amour, là, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que, déjà, bizarrement, au lieu de le rendre triste et de tout gâter,
Oui.
il a juste envie de me couvrir, en fait. Et ça se
Oh.
manifeste dans la façon dont il va continuer à me faire l'amour. Et la première fois quand c'est arrivé, après, je dis, hé, mon gars! Et il a dit, on va là-bas. Et puis, mon mari m'a vraiment couverte. En fait, je me suis sentie couverte. Je sais pas. C'est comme si j'avais une couette sur
Ce
moi.
sentiment de sécurité, de
Exactement. Il m'a vraiment
ouais,
couverte, en fait.
safety.
Et puis, à un moment, je lui ai dit, mais chérie, tu sers trop. Et puis, il a détaché ses bras. Mais il m'a vraiment serré dans ses bras. Il m'a vraiment serré dans ses bras. Et
T'as
je,
rassuré en fait, oui.
exactement. Et je pense que on gagnerait beaucoup plus à parler de choses aussi
C'est
naturelles.
beau.
Parce que c'est ce qu'on vit au jour le jour. Et de dire à des femmes que vous pouvez prétendre, enfin, vous pouvez exiger, même pas prétendre, exiger avoir ce type de relation. Parce qu'on y a accès, on veut avoir de haut. Moi, on m'avait dit, je disais hier à une sœur là que, à l'église, on m'a dit que je n'aurais pas, que j'avais un caractère trop fort, un caractère d'homme. Donc, un homme ne pourrait pas m'identifier comme femme pour m'épouser. Dans le monde, on m'a dit que j'avais un caractère, un sale caractère, donc personne n'allait vouloir m'épouser. Donc, moi, je suis partie du principe que personne n'allait vouloir m'épouser. Donc, je gardais mes standards très hauts. Si tu veux m'épouser, tu dois atteindre mes standards. Point. De toute façon, je ne suis pas faite pour le mariage. Donc, atteins mes standards. Et mon mari s'est battu d'année en année pour atteindre mes standards. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai des standards très élevés. Donne-moi la grâce de pouvoir être la femme qui a droit à ces standards-là. Et je me
Amen.
bats tous les jours pour être cette femme-là. Quand moi, je dis à mon mari que quand j'exprime un besoin, je veux qu'il soit comblé dans tel temps. Quand mon mari exprime un besoin, je fais tout pour qu'il soit comblé comme il le veut dans tel temps. Il y a des choses sur lesquelles on se bat. Et le jour du mariage, je lui ai dit, très cher amour, faire le lit, là, je vais essayer de le faire tous les jours, mais ça ne sera jamais fait comme tu le veux. En revanche, je vais essayer de faire le lit tous les jours avant de sortir. Parce que mon mari, il n'apprécie pas rentrer à la maison et le voir le lit défait. Il ne supporte pas. Moi, je m'en fous. Le lit est fait. Il est défait. Il est refait. Je viens, je trouve, je me jette dedans, je dors. C'est tout. Voilà. De toute façon, moi, je passe tout le temps. Mon mari, quand on est à la maison, dès que je me lève et que je vais dans la douche, il a fait le lit. Je dis, mais chérie, moi, je ne comprends pas. Tu as fait le lit, je vais venir me recoucher dans le lit. Il me dit, non, chérie, au moins, j'ai le sentiment que j'ai fait le lit. Et que j'ai fait. Je dis, mais ça, c'est quoi
Avant de sortir
ça?
de la maison.
Eh Seigneur, qu'est-ce que je suis allée chercher? Et puis on rigole. Mais vraiment, mon mari, il va te ranger le lit, il va t'essuyer les vêtements 100 fois. C'est-à-dire que dès qu'il enlève un vêtement, il va se rendre compte qu'il y a un t-shirt là qui est déplacé. Il va enlever tous les vêtements, il va reculer. Mais ça, c'est lui.
Est-ce qu'il a fait boarding school? Tu sais que les gens qui ont fait
Pas,
qui ont
même pas,
fait, je sais pas comment on dit
même
boarding
pas,
school, mais
même pas.
ah, ok.
Et je me dis que s'il avait fait ce type d'école où il est allé en école militaire et tout, moi j'étais foutue. J'étais foutue. C'est Dieu qui a eu pitié de moi et puis il n'y est pas allé. Et puis on est là.
Non, mais tu as raison.
Et donc, pour en revenir à ta question, c'est vraiment une revendication de femme. Et je veux d'abord, quand
Oui.
je dis c'est une revendication de femme, c'est que la femme même, sans être, doit revendiquer. Il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, je dis ça, mais je ne suis pas féministe. Très chère amie, on est toutes féministes, mais tu es une féministe qui ne se sait pas encore. Mais c'est une revendication de femme dans la constitution biologique de femme, d'abord. Parce que mon corps est politique, donc je me saisis de ce corps de femme politique-là et je dis que j'ai le droit d'exprimer la liberté d'expression, c'est ça, d'exprimer mes émotions dans l'espace public et de les vulgariser. Vulgarisation dans le sens de publier, hein, pas de vulgaire, parce que
Oui.
Tout
Oui.
le monde ne pratique pas la langue à mon niveau, donc mieux vaille que je précise.
Que tu expliques.
Oui. Et ensuite, c'est une revendication féministe. Parce que dans la lutte féministe, la politisation du corps et l'objectivisation du corps de la femme fait partie de la base même du combat. Et la conquête de notre corps nous-mêmes, et de dire que notre corps n'est pas la possession d'un être extérieur, mais c'est notre possession à nous. Mais quand je dis corps, je parle de corps, âme et esprit, hein, de notre être entier.
Oui.
C'est ça aussi qui me conduit à parler. Et ensuite, une revendication de mère qui refuse de s'enfermer dans sa chambre pour pleurer.
Je trouve que c'est une bonne thérapie. Et je trouve surtout
Oui.
que c'est important de libérer la parole. Parce qu'il y a plein de
Exactement.
femmes qui vivent ces choses. Et comme moi, je dis souvent, on souffre en silence. Alors que ta voisine, ta maman, ta cousine, tes tantes ont vécu les mêmes choses, mais comme tout est tellement tabou chez nous, on n'en parle pas. Ben en fait, jusqu'à peut-être au jour où toi tu te retrouves dans ces situations et puis peut-être quelqu'un va dire, ah oui, mais oui, moi aussi je suis passée par là. Ah ok, d'accord. Ben peut-être que si on avait
C'est
discuté
ça.
avant, ben ça m'aurait peut-être évité d'être dans la même situation ou de mieux me préparer. Donc
C'est ça, c'est exactement cela.
je trouve que c'est vraiment bien et on a besoin de plus en plus de gens comme toi, justement, libérer la parole sur tous ces sujets.
De gens comme nous, s'il
Oui,
te plaît,
pardon.
de gens
Oui,
comme
oui. De gens
nous.
comme nous pour libérer la parole. Parce qu'on va faire un autre épisode sur la précarité menstruelle. J'y tiens beaucoup aussi. Donc,
Mortel.
voilà. Et justement,
Pardon.
pour parler de tout ça et préparer la prochaine génération, en fait, que, OK, c'est des choses que vous pouvez rencontrer. Voici comment tu peux y faire face. Et tu as le droit de
Et
pleurer et
survivre,
survivre,
surtout.
c'est ça. Et tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'exprimer tes émotions, tu as le droit de ne pas accepter. C'est ton droit, c'est pas une obligation. Et je trouve ça bien. Et en fait, et moi, à chaque fois, quand j'écoute tes épisodes, en fait, ça me brise le cœur, mais en même temps, à la fin, je me dis, waouh, c'est bien que tu laisses ça. Et je pense même que pour honorer la mémoire de Petit Nuage, je trouve que c'est vraiment un beau témoignage que tu lui rends aussi.
Tu sais, il y a une chose que je me suis dite
Oui.
après avoir enterré Petit Nuage et après avoir entendu tous les témoignages que les gens ont fait, je me suis dit, il est mort, mais il faut qu'il vive.
Exactement.
Et j'ai baptisé mon association pour la précarité menstruelle de son nom. J'ai commencé,
OK.
quand je suis allée à Abidjan, je suis allée sur le terrain. L'argent que j'avais reçu, tout ce qui m'était resté, je l'ai utilisé pour organiser un précarité menstruelle tour. On est allé dans le village, on a distribué des serviettes hygiéniques. Avec ces trois parrains, parce qu'il avait trois parrains, tu sais, nous on fait jamais les choses à demi, hein, on fait les choses.
On est
Oui,
africain
on
ou
fait les
pas?
choses très bien. Donc il a trois parrains et j'ai fait
OK.
un cadeau de parrain à chacun. Et ils m'ont dit, mais attends, Tina, je leur ai dit non. Il aurait été en vie que je vous aurais, qu'on vous aurait fait des cadeaux de parents. Et donc j'y tiens parce qu'il a vécu 40 jours et pendant ces 40 jours-là, et vous n'êtes pas les parents de seul, vous serez toujours ses parents, point. Même quoi qu'il
Oui, quoi
arrive.
qu'il arrive.
Et donc j'ai fait des cadeaux de parents. Enfin, j'ai semé dans la vie de certaines personnes
C'est
parce
bien.
que c'était son argent. Et j'ai utilisé cet argent-là pour faire. J'ai fait un cadeau à son papa avec son argent. Aujourd'hui, j'ai la liste en fait de tout ce que j'ai fait avec son argent. Et je dis, même après sa vie, même son argent. En fait, il faut que chaque chose que je fais en hommage compte en nom
Oui.
de mon fils, en hommage à mon fils compte. Et que moi, je fasse compter sa vie parce qu'il a vécu pour moi. Et faut que je retransmette ça au monde. Je ressens ce
Oui, tu as
besoin-là.
raison.
Et ça me permet de vivre. Et ça m'a permis de tenir les premiers jours. Et ça me permet de tenir aujourd'hui.
C'est un joli témoignage, Tina. Et tu vois, je le connais pas, mais moi, à chaque fois quand j'écoute les épisodes, moi, je l'appelle Petit Nuage, tu vois, parce que pour moi, c'est ça son nom par lequel tu le décris dans ton podcast. Et je trouve que c'est beau et je trouve que pour d'autres femmes aussi qui vivent la même chose, je pense que certaines vont t'écouter, vont se sentir réconfortées. par tes mots, par
C'est le
tes
but.
émotions. Voilà, c'est ça, exactement. Et je trouve ça beau. Et là, j'ai envie de te demander, quelle est la place de Dieu, en fait, dans tout ce processus de deuil? Parce que, tu sais, on a une relation, en fait, moi, je ne sais pas pour toi, mais une relation particulière avec Dieu. Et parfois, à nos plus bas, quand on est plus bas, on peut se dire, bah, finalement, où es-tu? Pourquoi t'as permis que cela arrive et pourquoi? Ou parfois, finalement, on se dit, ben, s'il a permis, c'est parce que ça, et peut-être qu'il me prépare à quelque chose de mieux. Donc, toi, comment est justement, parce que je sais que tu es croyante, donc c'est pour ça que je te pose la question, quelle est ta place justement avec Dieu dans tout ce processus?
Et si je te disais d'écouter l'épisode du 3 avril pour avoir la réponse, est-ce que tu admettrais cette réponse-là?
Il n'y a pas de problème, moi je peux attendre.
Non,
Mais
non,
tu vois,
mais
je savais même pas que tu allais faire un épisode dessus, mais
si j'ai fait un épisode
OK.
froid d'œil et je sais plus quoi, mais en tout cas j'ai fait un épisode. C'est l'épisode du 3 avril, mais je vais quand même répondre hein, parce que. Je pense que peut-être que depuis que j'ai enregistré l'épisode, j'ai dû évoluer sur la question, mais je vais répondre.
Non, moi ta
La
réponse m'intéresse.
place de Dieu, en fait, c'est pas, c'est toute la place, en fait. Parce
Oui.
que, à aucun moment, moi, je n'ai remis en question Dieu dans cette, en fait, c'est Dieu qui me permet de survivre.
Oui, de
D'abord, une
survivre.
chose. Quand je suis rentrée à la maison, c'est ce matin-là, si je me suis pas, si je n'ai pas attenté à ma vie, ce n'est pas à cause de Dieu. C'était d'abord parce que j'aimais mon mari et que je ne voulais pas lui infliger d'avoir à enterrer deux corps. Mais c'était la première chose à laquelle j'ai pensé. Mais le fondement de mon amour pour mon mari, là, ce n'est pas mes
Oui.
propres forces. C'est Dieu qui me donne de
Exactement.
pouvoir l'aimer. Ensuite,
Amen.
à chaque fois quand on me demandait, quand je parlais des raisons pour lesquelles je n'attendais pas ma vie, je disais que c'était parce que j'étais consciente que mon corps ne m'appartenait pas. Je ne me suis pas créée moi-même. Donc mon corps ne m'appartient pas. Je ne veux pas infliger à mon mari d'avoir enterré deux corps. Et puis le reste venait après. Il y a plein, plein, plein d'autres raisons. Il y a que je ne veux pas infliger ça à ma mère, elle ne mérite pas ça. Encore moins à la mère de mon mari, plein, plein d'autres raisons. Mais les deux raisons centrales, c'est que mon corps ne m'appartient pas et que j'aime mon mari. Donc, même pendant les moments où j'étais dévastée, où il m'est arrivé de dire, Seigneur, je veux comprendre. Je ne disais pas, Seigneur, pourquoi? Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi tu me l'as donné et que tu me l'as repris. Je veux savoir le but de m'avoir fait toucher du bout du doigt ce bonheur que j'attendais tellement. Et moi, je sais que tu m'as dit que tu me donnerais un enfant. Tu m'as donné un enfant. Et après, avec mon mari, on a dit, Dieu nous a dit qu'il allait nous donner un enfant, mais il nous a pas dit qu'il allait nous donner un enfant qui allait vivre longtemps, qu'on n'a pas bien écouté le reste du message. On aurait dû poser la question, un enfant qui va vivre jusqu'à quand? Que la prochaine fois qu'on reçoit, qu'on va avoir un enfant, on va demander, un enfant qui va vivre jusqu'à quand? Et que maintenant, non, ah, mais
Comme ça, on se
oui, mais ça
prépare.
m'a changé. Quand je reçois quelque chose, je dis, je veux savoir plus. Sinon, je ne. Non, non, allez, dis-moi plus. Je ne reste plus sur le fait que, ah oui, j'ai reçu que je dois avoir de l'argent. Qui va donner l'argent? Comment? Et ça m'a rappelé Marie qui disait, comment cela se fera-t-il? Je dis, hé, j'ai raté le
Difficile.
module. J'ai raté le module, comment se fera-t-il? Comment se fera-t-il? Ma relation avec Dieu n'a pas changé. Moi aussi, j'ai une relation très particulière avec Dieu. J'ai une relation où Dieu m'isole parfois. Et j'ai une de mes amies, et elle, je vais la nommer parce que je pense, je ressens vraiment le besoin de la nommer là. Elle s'appelle Anaïs Anguillet, qui m'a appelée il y a de cela un mois. J'étais en train de me plaindre, j'étais en train de me plaindre du fait que je ne travaille pas, du fait que je suis dépendante financièrement, du fait que. Et puis elle m'a dit, tu fais rien actuellement, je dis oui. Elle me dit, mais est-ce que tu considérerais, tu prendrais pas en fait la situation dans un autre, d'une autre perspective, et puis de te dire que c'est un moment de mise à part où Dieu t'apprend à être complètement dépendant de lui, au travers de ton mari, au travers de telle personne, au travers de telle personne. Et c'était comme si Dieu utilisait sa bouche pour me parler parce que ça m'a transpercé le cœur. Elle a parlé pendant 30 minutes. Et pendant 30 minutes, je me suis dit, ouh, faut pas que j'oublie ce qu'elle est en train de dire. Et si on enregistrait, mais elle avait déjà fini de parler.
C'est une saison.
Oui, et je suis restée après. Déjà, quand mon mari est rentré, je suis devenue plus gentille. Et puis, je me suis dit, mais effectivement, c'est une saison que je peux utiliser pour apprendre à me connaître. C'est une saison que je peux utiliser pour apprendre à avancer sur pas mal de projets. C'est une saison en réalité, je ne manque pas ni d'eau, ni de pain, ni de riz, ni de sel. J'ai tous mes besoins, en réalité, tous mes besoins sont pourvus.
Amen.
Donc, est-ce que je ne peux pas me concentrer, au lieu de chercher à me concentrer sur ce que je n'ai pas, sur ce que j'ai, et d'en profiter pour
Merci.
prendre soin de moi? Parce que je veux un
Effectivement.
travail, mais en réalité, je ne peux pas m'asseoir sur mes fesses. Donc, si je commence à travailler, je risque de me fatiguer très vite et d'avoir des arrêts maladie sur arrêt maladie. Et ce n'est pas ce que je veux. Quand je vais commencer à travailler, je veux pouvoir me construire une carrière qui tue. Est-ce que je ne vais pas me donner le temps de guérir vraiment ou d'apprendre à revivre? Parce que je suis morte quelque part avec petits nuages. Donc, de prendre ce temps de mise à pas pour apprendre à revivre et apprendre à aller plus loin avec Dieu. Donc, cette réponse est très longue, mais c'est pour te dire que jamais il n'a été question de mettre Dieu à l'écart de quoi que ce soit. Parce que on a ce sentiment parfois que dans nos pires moments, on doit rejeter Dieu, vivre nos pires moments et revenir chercher Dieu. Non, moi, Dieu a été là. Même quand, et avec mon mari, on s'est dit que c'était le moment où on devait maudire Dieu. Tu vois, quand la femme de Job dit à Job, maudit Dieu,
Job, oui, maudit tes, oui, maudit
maudit Dieu et
Dieu.
meurt. Mais non, on ne maudissait pas Dieu. Quand on est rentré à la maison, je t'ai dit, mon mari a dit, on met une adoration là, pour que tu puisses bien dormir. Et c'est ce qu'il a fait.
Oui.
Et mon mari, il s'est pas arrêté de prier. Il a commencé à prier moins, mais il s'est pas arrêté de prier. Et aujourd'hui, c'est la période du carême musulman, du ramadan. Bah, il vit son
Oui.
ramadan. C'est devenu mieux parce que il commence à guérir, à avoir moins mal. Et on est toujours en train de chercher la face de Dieu pour comprendre. Aujourd'hui même, on cherche moins la face de Dieu pour comprendre pourquoi Petit Nuage est parti. On cherche plus la face de Dieu pour accepter que Petit Nuage est parti, pour le vivre moins difficilement. Mais c'est dans chaque saison, en fait, dans chaque, tu vois, dans tout ce que je t'ai raconté, je ne l'ai peut-être pas dit spécifiquement, mais il y a Dieu. Et moi, je vis, mon mari dit que moi, je fais du féminisme spirituel. Mais je vis mon féminisme totalement avec Dieu. Je sais que Dieu m'a
Amen.
créée entière et totalement accomplie. Je sais que la domination de l'homme sur la femme est une malédiction de la Genèse et que moi, je ne vis plus dans la, moi, je ne vis pas sous l'ancienne alliance, je vis sous la nouvelle alliance.
Nouvelle
Et donc,
alliance,
sous
il
la
a tout
nouvelle
payé.
alliance, il n'y a plus ni, il n'y a ni juif, ni
Condamnation.
grec, ni tout. Il n'y a plus aucune
Ni
condamnation qui
esclave,
subsiste.
ouais,
Il n'y a plus ni
exactement.
femme ni homme. On est tous des êtres égaux, 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 égaux. En revanche, dans notre morphologie, dans notre biologie, on n'est pas égaux parce que moi j'ai des règles et mon mari n'a pas de règles ou les autres hommes n'ont pas de règles. Donc il doit falloir mettre un peu d'équité dans la gestion de notre vie de tous les jours, mais on est égaux en tant qu'être humain. Même dans mon féminisme, pardon, je vais chercher des versets de la Bible qui me conforte dans ma position, dans les positions que je dégage et que pour lesquelles je me bats. Par exemple, je suis pour l'avortement. Je vais chercher, et le fait, enfin, je vais me justifier, même pas m'expliquer. Je suis pour l'avortement parce que c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour dans le sens où c'est l'être, je regarde l'être humain en face de moi. Et cet être humain a dit qu'il ne peut pas assumer cette responsabilité-là. Et au-delà de ne pas assumer cette responsabilité, je veux que cet être humain-là soit en vie. Alors, je suis pour un avortement médicalisé et institutionnalisé pour lui permettre pour lui permettre de vivre après avoir eu cette opération, parce que c'en est une, cette intervention médicale. Parce que le nombre de jeunes filles, le nombre de femmes qui meurent d'avortement, qui se passent clandestinement, on ne peut pas être humain, avoir un minimum d'humanité. Et ne pas être pour un avortement médicalisé, institutionnalisé pour la légalisation de... Parce que je ne sais pas à quel moment on se met dans la tête que légaliser l'avortement, c'est dire à toutes les femmes de... Mais ça nous coûte d'avorter. Il faut ne jamais avoir avorté pour penser que avorter, là, c'est comme aller acheter du pain. Ça nous coûte d'avorter. Ça nous enlève quelque chose. La mort de mon fils m'a rappelé qu'on fait perdre un enfant, enlever quelque chose de sa chair, de son corps. Mais on perd une partie de notre âme. Il faut ne jamais avoir avorté pour penser que avorter, c'est tellement facile que c'est une décision qui se prend du bout des doigts. Non, on ne se lève pas comme ça et on se dit aujourd'hui, ben, je couche sans préservatif et je finis, j'avorte. On fait ça, c'est quelque chose qui me révolte en fait. Je m'excuse, mais ça me révolte à un point. Et tout ce que je, tout, toutes les décisions que je prends par la grâce de Dieu sont fondées sur lui. Avant, j'avais peur en fait de ramener Dieu dans mes positions. Mais aujourd'hui, je me sens tellement libre. Et c'est pour la liberté que Christ m'a affranchie. Et que celui qui n'est pas d'accord avec moi ne soit pas d'accord avec moi. Et qu'il a cherché Dieu pour que Dieu le convainque. Moi, je n'ai pas besoin de te convaincre. Je suis déjà convaincue, c'est suffisant.
Non, je. Bon, moi, ma relation, ça a toujours été un peu. Enfin, parce que moi, je ne suis pas dans la religion. Je suis dans la relation, l'intimité avec Dieu.
Amen. Et moi aussi.
Voilà. Donc, je ne prône pas une religion spécifique parce que la religion, pour moi, c'est l'homme. Et donc, quand après, tu mets l'homme devant, mais en fait. Après, on oublie très rapidement. Et surtout quand tu suis Dieu après, c'est aussi de te fonder sur sa parole. Voilà, sur ce qui est dit. Et parfois, on traverse des choses. Et moi, je sais que les deuils que j'ai eu à vivre dans ma vie, ça a toujours été. Bah, le premier deuil, c'était 18 ans, juste un mois avant le bac. Un ami est décédé et tout ça. Et ça avait été retrait de Dieu parce que, mais comment tu peux permettre ça en fait et tout alors que bah, tu nous as créé, tu nous as dit ci, tu nous as dit ça. Et en fait, après, tu grandis et quand tu relis vraiment la parole, mais c'est pas, enfin, me suivre ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve en fait. Me suivre ne veut pas dire que ça sera tout beau, tout rose. Me suivre ne veut pas dire que tu vas pas traverser le désert.
C'est ça.
Et donc, quand tu regardes les choses de cette manière-là, où tu changes ta perspective, en fait, ta manière de voir les choses, en fait, tu te dis, et ça rassure même mieux, en fait. Et parfois, c'est limite, je demande, OK, donne-moi telle saison pour que je puisse voir ta gloire, pour que je puisse voir, pour que tu puisses te manifester à travers moi. Donc, c'est vrai que, enfin, en tout cas, ma manière de voir les choses maintenant, enfin, ça a complètement changé au lieu de me dire, non, tu m'as puni ou parce que si ou parce que ça, je me dis non, ok, d'accord. Si tu l'as permis, c'est parce que c'est pas le moment et tu me prépares à quelque chose de mieux. Mais cette chose de mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle sur le chemin.
Et je dis amen. Et j'aime bien qu'en fait que tu aies parlé de punition parce que, tu sais, moi, je suis une chrétienne et j'ai épousé un musulman. Et certains disent que, enfin, c'est ma punition. Le fait de perdre notre enfant, c'est une
Parce que.
punition. C'est le fait, parce que j'ai désobéi à la parole, disent-ils. J'ai désobéi à
Parce
la
que tu es avec un
parole. Oui,
musulman?
parce que j'ai épousé un musulman. Donc, j'ai donné mes perles au pourceau, tu vois. Et
N'importe quoi.
oui. Et
Pardon,
donc, c'est la
désolée.
punition. Non, mais t'inquiète pas, c'est totalement n'importe quoi. Et tu vois, là, je me dis, mais vous êtes censé manifester de l'amour, beaucoup d'amour. Et tout ce que vous voulez chercher, c'est le fait que j'ai été punie d'avoir perdu. Et punie de quelle manière? En perdant mon enfant. Et je ne sais pas si tu te souviens dans la Bible, les amis de Job.
Et Job a
C'est
dit,
ça.
prie pour
J'ai ouais, j'ai forcément
eux.
fait une bêtise, c'est pour ça que j'ai perdu mon enfant. Alors que, en fait, j'ai une de mes petites sœurs qui me disait samedi dernier que, mais et les chrétiens qui sont mariés, chrétiens, chrétiennes, époux, épouses, et qui perdent leur enfant, eux, ils ont fait quoi?
Exactement. Ou qui n'arrive
Et je
pas à
me
avoir
souviens
d'enfant.
encore, et je me souviens encore de cet aveugle-là, pour qui on a, à qui on a demandé à Jésus, mais lui, qu'est-ce que ses parents ont fait pour
En
qu'il mérite
fait.
ça? Et le Seigneur a dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, c'est seulement pour la gloire. Et moi, j'étais déjà, je sais, je sais, je, en fait, j'en parle avec toi là, donc je mets les mots, je mets les mots sur les choses et tout, mais j'étais même pas dans cette pensée de me dire que, bah, maudit Dieu maudit Dieu et meurt, quoi. C'était de vivre ça avec Dieu. Et je pense que les épreuves que j'avais passées avant m'ont appris à vivre toute saison, avec, quelle que soit la saison, que ce soit dans le malheur comme dans le bonheur, je vis cette saison avec Dieu.
Amen.
Et quand on me dit que je suis très forte, en fait, je me dis, je ne vois pas en quoi je suis forte dans cette situation. Mais je pense que dans ce deuil, dans cette épreuve, Dieu me porte. Et c'est pour ça
Oui,
que je
c'est
ne
la
vois
force
pas ma,
divine.
je ne vois pas ma force, je ne vois pas ma force humaine, je ne vois pas ma propre force parce que je me trouve vraiment délabrée, je me trouve abandonnée. En fait, je me trouve comme ça, quoi. Comme diraient les Ivoiriens, je
Mais
suis là, quoi. Je suis là comme ça.
mais et c'est des choses qu'on n'explique pas parce que c'est et c'est ça la foi parce que c'est divin.
Je suis là
Et
comme
la
ça, je
sagesse
suis
divine, la
et
force
je suis
divine,
portée.
on ne peut pas.
Et je veux insister sur quelque chose de très important et ce serait vraiment, je m'en voudrais de ne pas parler de ça. C'est que Dieu, il ne reste pas au ciel et puis il dit, et puis sa main là vient nous toucher. Il passe par des gens. Et je voudrais remercier de tout mon être et de toute mon âme ces personnes-là qui se reconnaissent, qui ont été là depuis le début de ma relation avec mon mari, qui nous ont accompagnés, qui nous ont accompagnés dans le mariage, qui nous ont accompagnés pendant la grossesse et qui ont été la main que Dieu a utilisée pour nous porter. J'ai vraiment, et j'espère que là, en ce moment, quand ils vont écouter l'épisode, ça va leur faire du bien parce que je les aime
J'espère.
énormément. Parce que moi, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu au travers de ces personnes-là. Je vois Dieu et
Amen.
c'est pas comme si ça s'est arrêté parce que ces personnes-là sont toujours là. Je vois Dieu au travers de ces trois parrains, de ces deux parrains et de sa marraine. Je vois Dieu au travers de mes tatas, de mon témoin de mariage. Je vois Dieu au travers de leurs époux dans notre vie de tous les jours. Je vois Dieu au travers de ma mère. Je vois Dieu au travers de la mère de mon mari qui est, oh, qui est un bonheur. La mère de mon mari, c'est le bonheur que Dieu a façonné, il a déposé. Elle m'a appelée ce matin, il faut que je la
Amen.
rappelle. Elle est présente. Et moi, je n'ai jamais vu autant d'amour, de diffusion de. Enfin, il y a des gens autour de moi qui sont chrétiens et je vois de l'amour. Mais l'amour que je vois, le cœur de ma belle-mère qui est musulmane, ce que je vois, c'est vraiment un cœur selon le cœur de Dieu. Et c'est comme le cœur de
Amen.
mon mari.
J'ai choisi un homme
Il
selon,
s'est
oui.
choisi un homme selon son cœur. Et je le vois. Et
Oui.
je pense que c'est. Dieu est Dieu et il se manifeste où il veut, quand il veut. Celui qui est capable d'utiliser le corbeau pour
Exactement.
nourrir son oin, pourquoi il n'a pas dit à Élie de allez, claque des doigts et la nourriture va. Il a fait
Oui.
descendre le feu du ciel. Hein. Mais quand il s'est agi de le nourrir, c'est un corbeau. Alors que pour les Juifs, le corbeau est signe de malédiction. C'est un oiseau de mauvaise augure. Il apporte la mauvaise nouvelle. Mais Dieu a choisi à cet instant-là que le corbeau apporte sa bonne nouvelle. Il faut à un moment que les chrétiens sortent de ce canevas dans lequel ils se sont enfermés et apprennent à manifester de l'amour. Mais un amour comme
Agapé,
Jésus-Christ,
un
qui
amour
pouvait
vrai.
aller s'asseoir avec les prostituées, avec les gens de
Des
mauvaise vie
lépreux.
et être avec eux parce que c'est pour cela qu'il est
C'est ça.
venu. C'est pour cela qu'il est venu.
Parce que je me dis que ça sert à
Bah,
rien.
finalement, on a fini par prêcher.
Ben oui, parce que non, mais parce que je me dis que ça sert à rien de dire oui, je prie, je prie, je prie. C'est pour ça que j'ai dit je suis pas dans une religion en fait.
Et de ne pas pouvoir manifester de l'amour au
Mais
jour le
c'est
jour.
ça, alors que même les fruits de l'esprit et tout, c'est l'amour, l'amour, la paix, la joie, l'estime de soi, enfin la
La
patience et tout.
bienveillance.
Exactement. Donc, si on n'a pas toutes ces qualités-là, finalement, quel est le caractère qu'on cherche à manifester? C'est quoi notre relation avec Dieu? Donc, non, mais je suis super contente que tu sois entourée de ces âmes bienveillantes qui vous accompagnent, qui sont là pour vous à travers leurs prières, leurs mots, leur présence et tout. Je trouve que c'est super important.
Oui, et je vais bientôt faire un épisode sur eux, vraiment, pour
Ah,
leur
cool.
dire merci.
Je
Donc,
aussi.
c'était on a introduit
L'introduction chez moi.
l'épisode, voilà, c'est ça, chez toi.
Oui,
Donc, je vais dire introduction de l'épisode chez IJ
voilà,
Awali,
il y a
et il faut
ouais,
venir après écouter.
exactement. Et est-ce que vous envisagez d'avoir un autre enfant?
Alors, ça, c'est une question épineuse. C'est une question épineuse et je crois que j'en ai parlé dans le dernier épisode parce que je voulais être une maman qui vit. Je me suis rendu compte qu'avec les crises d'endométriose, c'est difficile d'avoir un bébé. J'avais vu une maman que je suis sur Twitter qui avait dit que est-ce qu'elle n'avait pas pris, elle avait pas, ça n'avait pas été égoïste de vouloir un enfant en sachant qu'elle a de l'endométriose. Parce que là, ça fait, elle avait des crises et elle pouvait même pas entendre son enfant pleurer parce que ça lui tapait sur le système. Hein. Avec les douleurs, je sais ce que je... Enfin, quand elle a dit ça, j'ai compris parce que moi-même, le bruit des pas dans la maison me donnait envie de tuer la personne qui marchait. Donc, je comprends ce qu'elle disait. Donc là, on a mis... on est focus, on se focalise sur le fait que je puisse retrouver une hygiène de vie tenable. Donc d'abord, moi, retrouver une... Parce qu'on est conscient que la grossesse, ça ne sera pas facile. Aucune grossesse n'est facile. Mais je veux dire, il y a un certain minimum qu'on vit dans la grossesse, et puis il y a ce que mon type de grossesse là présente. Donc, déjà, terminer ma thèse, soutenir, et à ce moment-là, et retrouver une hygiène de vie. Donc là, mon nouveau traitement qui fonctionne, gloire à Dieu.
Amen.
Et puis après
Je suis
ça,
contente.
merci. Et puis après ça, repenser à faire un bébé. Donc retourner en circuit. Si on n'a pas, on n'arrive pas à refaire un bébé dans les mêmes conditions que Petit Nuage, retourner dans un circuit PMA. Donc pour l'instant, j'ai l'utérus et les ovaires qui sont au repos. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, j'ai moins de douleurs. J'ai eu une crise il y a une semaine, mais la crise a duré 2 jours. Et c'est tellement rare qu'une crise dure 2 jours que pour moi, c'est même pas une crise à référencer. Mais bon, vu que je dois référencer
C'est déjà une petite victoire, donc.
pour savoir comment le traitement marche. Mais voilà, donc pour l'instant, projet bébé, c'est une pause. Mais bon, si on veut avoir un bébé, il va falloir se remettre très vite parce que faudrait pas, enfin, c'est risqué de passer, médicalement, je précise, c'est risqué de passer les 35 ans. Donc, on va s'y remettre dans 2-3 ans. Voilà.
Non, mais en attendant, ben, je pense que c'est important aussi, hein, de prendre soin de toi et surtout de prendre le temps pour vous de vous retrouver et de mieux, et que ce moment-là vous serve de, enfin, que ce soit la préparation pour tout ce qui vous attend, en fait.
C'est ça.
J'ai hâte de voir tout ce que Dieu vous réserve.
Mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi, j'ai hâte. Et je disais à mon mari la semaine dernière que, tu sais, on peut avoir une surprise, hein, dans 2, 3 mois, on se réveille et puis on est enceinte, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu as recommencé. Je dis, bon, on ne sait pas, hein, on peut être enceinte, hein, chérie, ça.
Non, mais
Dis,
c'est en fait c'est
hey.
ça, mais en fait avoir un bébé c'est divin, en fait c'est une grâce que les
Bah
gens,
oui,
enfin
bah, enfin, on n'est fermé à aucune possibilité. Moi, je me dis, si Dieu croit que c'est le moment, bah moi je suis
ben voilà,
disposée,
il le fera,
disponible.
et c'est ça, tout simplement, il faut juste rester ouvert.
Il donnera la pluie en son temps.
Exactement, ouais. Et on arrive presque à la fin de l'épisode, et si tu avais trois conseils, trois tips à donner. Je sais que tu es encore dans la douleur, il y a encore la peine, mais ça va, tu en parles. À donner aux personnes qui vivent les mêmes choses que toi, ou même juste des conseils à des femmes. Qu'est-ce que tu leur
Alors, la
dirais,
première chose,
Lina?
c'est autorisez-vous à pleurer. Ne ménagez pas vos émotions, en fait. Laissez vos émotions s'exprimer. La deuxième chose, soyez bienveillante avec vous-même. Personne ne va vous apporter autant de bienveillance que vous-même envers vous-même. Soyez bienveillante avec vous-même. Parfois, oubliez ce que le monde a à dire de vous et dites-vous les choses que vous voulez dire de vous. Soyez bienveillante avec vous-même. Et la troisième chose, vivez. Autorisez-vous à vivre. Autorisez-vous à sortir des carcans dans lesquels on veut vous enfermer. Autorisez-vous à vivre et croyez en vous. Je dis, il y a un truc que je dis, c'est que si vous ne croyez pas en Dieu, ni en Allah, ni en Bouddha, ni en tout ce que vous voulez, croyez au moins en une chose, croyez en vous. Voilà.
Merci en tout cas pour ces belles paroles de fin, et je suis super contente. Ça a été c'était un épisode plein 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 d'émotions, Mais je suis contente de l'avoir fait.
Je crois que je vais
Oui, non, c'est
dormir
ça,
après.
mais je pense, enfin, en tout cas, je suis contente de l'avoir fait et j'ai hâte qu'on se retrouve pour notre deuxième épisode sur la précarité menstruelle parce que on n'en parle pas assez, mais c'est pas tout le monde qui a la chance tous les mois d'avoir des serviettes pour pouvoir se protéger durant ses règles et c'est important.
Exactement.
Oui, donc c'est ça.
En tout cas, j'attends que tu me donnes la date dans ton agenda et puis
Oui,
on le fera.
oui. Et Bettina, ben merci,
Et c'est
merci beaucoup.
partagé. Merci beaucoup. Ça a été un véritable plaisir. Et je suis honorée que tu m'aies contacté, que on en ait parlé. Merci beaucoup.
Et voilà mon échange avec Tina qui touche à sa fin. Et je la remercie énormément pour son temps. Merci d'avoir partagé avec moi ta peine, tes émotions, ta douleur, tes conseils, tes mots avec moi. J'apprécie énormément. Et pour toutes les personnes, les couples, les femmes, les parents qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose, je prie du fond de mon cœur que Dieu vous donne la force, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous fortifie et vous aide à traverser cette épreuve. Et si vous voulez en savoir davantage sur Tina, comme d'habitude, je mettrai l'ensemble de ces informations dans la description de cet épisode. Mais déjà, je peux vous dire que vous pouvez aller la suivre sur sa page Instagram qui s'appelle Les mots d'une mère endeuillée, où elle a un podcast justement où elle partage vraiment mais épisode par épisode comment elle a fait pour vivre ce deuil et pour elle c'était une thérapie en fait. Son podcast était une thérapie pour elle de pouvoir justement traverser cette épreuve. Et elle a aussi une autre page qui est dédiée à l'association Adin Tani qui lutte contre la précarité menstruelle. Donc, elle fait beaucoup de sensibilisation, de levée de fonds pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir leurs règles dans des bonnes conditions. Parce que nous sommes des femmes, mais cela ne veut pas dire que nous sommes condamnées. Et en tant que femme, on a le droit d'avoir ces règles tous les mois dignement en ayant accès à des protections disponibles, gratuites pour pouvoir traverser ces moments-là tous les mois de notre vie. Donc je vous invite à aller également sur cette page si jamais vous voulez faire un don, si vous voulez soutenir d'une manière ou que ce soit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Tina et elle se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Et enfin, si tu as aimé cet épisode, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-le massivement autour de toi. Partage-le à tes proches, à tes amis, à tout le monde pour m'aider à faire connaître Ijaweli. Et ça me ferait super plaisir d'avoir ton feedback concernant cet épisode ou Ijaweli de manière générale. Et je t'attends sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion. Et je te dis à très vite. Pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.